Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La question agricole est un peu la grande disparue de l'actualité internationale. Il semblerait que ce ne soit la priorité d'aucune des grandes puissances commerciales du moment, ni des Américains, ni des Chinois, ni des Européens. Pourtant, semer, cultiver, récolter, transformer et vendre à proximité ou très loin, toutes ces activités sont essentielles à la sécurité alimentaire mondiale et le mode de régulation ou l'absence de régulation qui prévaudra demain jouera un rôle clé dans la nouvelle répartition des pouvoirs mondiaux qui se joue en ce moment. Alors, si on parlait agriculture, si on se demandait où en sont les échanges agricoles internationaux, où en sont les grands flux, quel impact a l'action de la Maison-Blanche de Donald Trump sur cet univers économique, sur les revenus des producteurs et comment les puissances agricoles que sont l'Europe, la Chine, le Brésil ou encore l'Inde réagissent. Est-ce du chacun pour soi ? Le temps des grands accords internationaux, des grandes négociations agricoles est-il révolu ? Voilà les questions que je vais poser à nos trois invités. Et d'abord à vous. Bonjour Charlotte Emlinger.
Bonjour.
Charlotte Emlinger, vous êtes économiste au CEPI, un des grands centres de recherche en économie internationale à Paris, sinon le principal. Vous êtes spécialiste du commerce international. À vos côtés dans ce studio, Frédéric Courleux. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Courleux, vous êtes directeur des études d'un think tank qui s'appelle Agriculture Stratégie et qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture européenne en particulier. Et je termine ce premier tour de table par vous, Thierry Pouche. Bonjour.
Bonjour.
Thierry Pouche, vous êtes économiste, responsable du service études et prospectives des chambres d'agriculture de France, chercheur associé au laboratoire Regard de l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et membre de l'Académie d'agriculture de France. Une agriculture dont il sera question dans cette émission aussi grâce à un reportage aux États-Unis signé Anne Corpet. Nous irons également à Pékin pour retrouver Stéphane Lagarde, à Rio de Janeiro avec un reportage de Sarah Cosolino et au Royaume-Uni avec Abla Junaïdi. D'abord, on va essayer de définir de quoi on parle. Quand on parle échanges agricoles commerciaux, de quoi est-il question véritablement, Charlotte Emlinger ?
On échange toutes sortes de produits, bien évidemment. Tous les produits agricoles sont maintenant produits dans le monde entier. Donc c'est effectivement un secteur où il y a beaucoup d'échanges, mais il faut savoir que c'est quand même aussi un secteur où il y a moins d'échanges que dans les autres secteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas eu la fragmentation de la chaîne de valeur qu'il y a eu dans le produit manufacturier. Donc, c'est quand même des produits pour lesquels il y a encore des barrières aux échanges importantes, parce qu'il y a encore beaucoup de droits de douane, contrairement à ce qu'on pense, et les coûts de transport sont encore assez importants. Donc, des échanges importants qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, mais relativement moins par rapport aux autres produits.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de chaîne de valeur comme dans l'industrie, c'est-à-dire qu'un produit ne fait pas 25 allers-retours,
voilà, c'est-à-dire,
et ne franchit pas 40 frontières pour s'enrichir d'une transformation à chaque passage dans un pays ou dans une usine différente.
Tout à fait. Bien sûr, ça existe un petit peu pour certains produits agroalimentaires. On cite toujours le Nutella qui est fait à partir de produits qui viennent du monde entier. Mais par rapport aux produits manufacturiers, par rapport au téléphone, à tout le matériel électronique, c'est beaucoup moins important. Donc le commerce a beaucoup augmenté dans l'ensemble, dans le monde, à cause de cette fragmentation de la chaîne de valeur, mais relativement moins dans l'agriculture, qui reste aussi un secteur très, très protégé.
Thierry Pouche, alors qu'est-ce qu'on échange ? Qu'est-ce qui voyage dans les soutes des cargos sur les océans de ce monde ? Ou dans les camions à travers les frontières ?
Et on exporte des grains, on importe donc des grains aussi. Les produits animaux, les viandes, la viande bovine, la viande porcine, sous quelque forme que ce soit, soit en vif, soit en carcasse, soit en produits congelés, tout ça circule, y compris, vous l'avez indiqué, des produits tropicaux comme le café. On exporte énormément de production agricole et alimentaire, donc des produits bruts qui font l'objet de transformation dans les pays importateurs ou des produits définitivement transformés qui sortent des frontières.
Alors, on sait que ces produits alimentaires sont indispensables à la survie de l'humanité, donc Est-ce que c'est un monde très pacifié, ce monde des échanges agricoles, ou est-ce que c'est un monde de brut, un monde où tous les coups sont permis ?
Dans l'évolution de la mondialisation, même en dehors du secteur agricole et alimentaire, on le voit bien en ce moment avec la question d'Airbus, je pense que tous les secteurs sont concernés par des rivalités commerciales. On est dans une géoéconomie extrêmement conflictuelle et l'agriculture a cette particularité que depuis les négociations de l'Uruguay-Rand à partir de 1986 jusqu'aux accords de Marrakech et au-delà, dans le cycle de Doha actuel, on a une conflictualité qui s'est élevée, mais qui caractérise de plus en plus de pays aujourd'hui.
Très conflictuel, Frédéric Courleux, vous êtes d'accord avec cette vision des choses ?
Oui, oui, il faut pas être naïf. Les produits agricoles sont au cœur d'enjeux géopolitiques importants.
Et géoéconomiques.
Et géoéconomiques. Ouais. C'est 12% en valeur la part des produits agricoles et agroalimentaires qui sont échangés. C'est des travaux de l'INRA dans le cadre de Mondalim. Effectivement, il y a à la fois
l'Institut national de la recherche agronomique.
Tout à fait. Il y a à la fois des acteurs privés. On connaît tous les ABCD, Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill, Dreyfus. Mais il y a aussi.
Ce sont les grands négociants internationaux.
C'est voilà. Ça. Et il y a aussi des offices publics dans un certain nombre de pays en développement qui gèrent l'approvisionnement alimentaire sur les marchés internationaux.
Charlotte Emminger, vous les voyez apparaître ces conflits dans les chiffres, dans des échanges?
Oui, bien sûr. Alors après, il faut distinguer les effets de politique et de stratégie d'acteurs sur le court terme et sur le long terme. Donc moi, je travaille plutôt sur le long terme. Donc ce qui est une des caractéristiques du marché agricole, c'est aussi la grande volatilité des cours et le fait que un événement climatique, un événement politique peut avoir entraîner de grandes variations sur les marchés mondiaux. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus difficilement dans les données. Moi, je m'intéresse plus au long terme, où on voit plus donc l'évolution de la libéralisation et des accords commerciaux, bien évidemment. Donc, les accords signés à l'OMC, comme l'a dit
l'Organisation mondiale du commerce, oui.
Et aussi les accords bilatéraux, donc signés entre plutôt un groupe de pays. Encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que l'agriculture est au cœur des enjeux dans les négociations multilatérales et, enfin, à l'OMC et dans les accords entre pays parce que c'est un secteur où il y a encore des droits de douane. Comme il y a des enjeux importants, les pays cherchent à se protéger de la concurrence internationale, donc en protégeant leur marché des importations. Et donc, c'est un secteur où il y a encore une marge de libéralisation par rapport aux autres secteurs. Et donc, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec votre introduction. Moi, j'ai l'impression que l'agriculture est quand même au cœur, malgré tout, des négociations et des sujets internationaux, surtout en termes de politique commerciale, parce que c'est le secteur où il y a encore des droits de douane, où il y a encore des normes très importantes et donc qui sont forcément sujets à conflit.
Oui, mais quand je dis que ça n'est pas un sujet d'actualité internationale, je veux dire, on parle beaucoup des négociations sur l'acier, des conflits entre Boeing et Airbus, de l'intervention de Trump, mais l'agriculture, c'est un moyen de chantage, un moyen d'échange, mais c'est un dossier sous-jacent, Thierry Pouche.
C'est plus qu'un secteur qu'on appelle souvent une monnaie d'échange dans les négociations. Donc, il y a ce que vient de rappeler Charlotte Emminger sur, effectivement, l'enjeu que représente le démantèlement douanier, mais il y a aussi des enjeux pour la sécurité alimentaire et pour la captation de parts de marché. Quand vous dites que l'enjeu aujourd'hui, c'est l'acier, c'est l'aéronautique, faut pas oublier que dans le déclenchement de la guerre commerciale par Monsieur Trump, très souvent, le pays qui est la cible adopte des mesures de rétorsion. Et là, à chaque fois, que ce soit pour la Chine ou pour la Russie au moment des sanctions financières infligées par l'Union européenne et les États-Unis avec la crise ukrainienne, ça porte toujours sur le secteur qui est en principe le plus performant dans le pays qui déclenche le conflit. Là, la Chine a réagi par rapport aux sanctions douanières de Monsieur Trump sur l'acier et l'aluminium et ils ont adopté des mesures de rétorsion en augmentant les droits de douane sur le soja, sur la viande de porc, sur le coton, etc. Et on voit bien que ça déstabilise les productions intérieures, puisque les producteurs de soja, sur le deuxième semestre 2018, ont vu leurs exportations baisser de 90%. Donc il faut adopter à l'intérieur des États-Unis des mesures de politique publique pour aider ces agriculteurs qui sont en détresse économique, les revenus baissent, les exportations baissent, et on voit bien que le ministère, à travers son agence de versement des aides, a débloqué déjà sur une enveloppe de 30 milliards, 12 milliards pour les aider, et c'est une enveloppe qui ne nécessite même pas l'accord préalable du Congrès américain.
Alors, ces producteurs américains de soja qui sont en détresse, on va aller à leur rencontre avec ce reportage Ecodici Ecodaya signé Anne Corpet, un reportage qui a été diffusé au mois de novembre dernier, donc réalisé un peu avant, au moment où on était en pleine campagne pour les élections de midterm. Anne Corpet en Pennsylvanie.
Hi, how are you?
Good.
I'm Anne.
I'm Bill Boy.
Nice to meet you.
Les fermiers américains sont des victimes collatérales de cette taxe sur l'acier importé. Pour riposter, la Chine a en effet instauré des droits de douane sur les produits agricoles et notamment sur le soja. Justement ce que cultive William Boyd, il nous accueille dans sa ferme à Merztown, dans le nord de la Pennsylvanie.
I farmed my whole life. Soybeans, probably in the last 30 years.
J'ai toujours été cultivateur. Je me suis mis au soja il y a 30 ans. Ça rapportait bien à l'époque. Ces dernières années, mon soja était embarqué dans les ports du New Jersey, dans des containers vers la Chine ou l'Europe. Mais depuis la riposte de la Chine sur les taxes, les prix du soja ont baissé de 2 dollars par boisseau. À ce tarif, avec le coût des engrais, de la location des terres et des équipements, on est proche du point de rupture. C'est plus que c'était. On va essayer de tenir une année supplémentaire en espérant que le cours remonte.
William Boyd nous emmène voir ses champs. Les cours du soja ont plongé à leur plus bas niveau depuis une décennie. Donald Trump a promis de solliciter le contribuable jusqu'à 12 milliards de dollars pour compenser les pertes du secteur agricole.
Toutes ces fermes cultivent du soja. On sera prêt à récolter peut-être d'ici une semaine ou deux. Voilà mon champ de soja. Tout a l'air d'aller bien, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ce que je crains, c'est la pourriture à cause de la pluie qu'on a eue le mois dernier. Mais tout a l'air d'aller, c'est une bonne chose.
Mais à cause des taxes, c'est plus difficile?
Oui, les fermiers souffrent à cause de ces taxes, oui. Quel travailleur supporterait une baisse de 20 à 25% de ses revenus sans se plaindre? C'est ce que nous subissons, mais je pense que c'est nécessaire pour tenter de contrer la domination économique des Chinois.
Cut back on China's economic dominance.
Donc vous comprenez pourquoi il y a ces taxes?
Yes, I do.
Oui, quand Trump a décidé de mettre ces taxes en place, j'y étais complètement opposé en tant que fermier. Mais il faut avoir une vue d'ensemble et nous devons faire quelque chose pour notre économie face aux Chinois.
Un reportage signé Anne Corpet dans les plaines agricoles de Pennsylvanie. Un beau sens civique, Thierry Pouche, de ces producteurs qui consentent à un sacrifice sur leurs revenus compensé par des subventions. Mais quand même, il y a d'abord une baisse de revenus.
La baisse de revenus, elle est antérieure à la décision de M. Trump de déclarer une guerre commerciale envers la Chine. Ça fait déjà 5-6 ans que le revenu baisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on maintient et on renouvelle, comme ça s'est fait au mois de décembre, la politique agricole américaine en injectant 430-440 milliards sur 5 ans de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un sens civique, parce qu'ils savent que 46% du déficit commercial américain vient de la Chine, donc c'est quand même presque la moitié du déficit. Et deuxièmement, il faut rappeler que pendant la campagne électorale de M. Trump, 78% des agriculteurs ont voté pour Donald Trump. Et lorsqu'il est allé faire, il y a quelques semaines, un discours devant les farmers américains, il a encore été ovationné. Donc on voit bien que il y a une sensibilité chez les agriculteurs de l'importance que peut encore avoir les États-Unis dans l'économie mondiale et en particulier dans l'agriculture. J'ajoute juste un point, c'est qu'il y a une conséquence pour les Européens, c'est que le fait que les Américains n'exportent presque plus ou beaucoup moins en tout cas de soja vers la Chine, il faut qu'ils trouvent des débouchés de substitution et ils les trouvent sur l'Union européenne, ce qui aggrave du coup notre dépendance en protéines végétales vis-à-vis du soja.
Frédéric Courleux.
Avec la taxe à 25%, on a vu le prix du soja américain baisser de 25%
sur l'acier.
Alors, en répercussion à la taxe sur l'acier, les Chinois ont mis en place une taxe de 25% sur le soja. Le prix du soja américain a plongé de 25% très vite, en moins d'un mois, et on a observé un décalage avec le prix du soja brésilien, et qui est devenu plus cher. Le prix du soja brésilien et le prix du soja argentin sont restés un peu plus élevés pendant 3-4 mois, et là, maintenant, près d'un an après, les choses sont revenues dans l'ordre, et tout le monde a baissé de 25% au final. Et effectivement, dans l'intervalle, les Européens ont importé moins cher, au final, du soja américain. Ce qu'il faut pouvoir aussi ajouter, c'est que les 12 milliards en question que Trump a déclenché très très vite, par ordre de grandeur, la PAC en France, c'est 9 milliards, hein, en tout et pour tout. Là, seulement en mesure d'urgence, Trump déclenche 12 milliards. C'est 60 dollars la tonne que cette aide correspond pour les producteurs. Mais il faut ajouter en plus, Thierry vient de le dire, la politique agricole américaine est très très interventionniste. Et les producteurs de soja, quand le prix descend en dessous d'environ 300 dollars la tonne, ils ont des subventions qui se déclenchent en fonction des prix, ça s'appelle des aides contracycliques. Donc c'est des aides assez intelligentes, nous on les promeut parce que elles permettent...
Quand vous dites nous, c'est qui ?
Agriculture stratégique, il y a des vertus à ce type d'aide qui permet, contrairement à la PAC, où on verse des subventions.
À la politique agricole commune européenne.
À la politique agricole commune européenne. Nous, en Europe, que les prix soient hauts, que les prix soient bas, on verse des subventions. Les Américains agissent intelligemment, pour compenser quand il y a une perte de revenus due à des prix bas.
Charlotte Emlinger, est-ce que Trump, c'est un grand perturbateur des marchés agricoles?
Typiquement, dans le cas du soja, donc là, c'est pas, pour être bien clair, c'est pas Trump qui a fait quelque chose sur le soja, c'est bien la Chine qui, en réponse à sa politique sur l'acier, a mis des droits de douane. Dans le cas du soja, c'est très particulier parce que c'est un secteur, un produit où il y a très peu d'acteurs sur le marché mondial. Et donc, les États-Unis, c'est le premier, avec le Brésil, les premiers exportateurs mondiaux. Et la Chine, c'est un des premiers importateurs, enfin c'est le premier importateur mondial de soja. Donc c'est un marché extrêmement concentré et il suffit qu'il y ait justement quelque chose entre deux acteurs que sont les États-Unis et la Chine pour changer complètement le marché mondial du soja. Donc c'est à peu près la Chine, c'est 50% des importations de soja hein, avant ce qui s'est passé. Du côté des États-Unis, c'est une grande majorité de la production est à destination de l'exportation. Donc c'est vraiment un secteur très particulier. Donc faut pas croire que le soja c'est représentatif du marché mondial agricole parce que c'est un produit qui est extrêmement échangé, qui est fait pour l'exportation et où il y a très peu d'acteurs. Donc il se passe ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la Chine importe moins des États-Unis à cause des droits de douane qu'elle a mis en place. Donc elle va importer du Brésil. Et l'Union européenne, elle, bénéficie des prix bas, du coup, des produits américains.
En gros, c'est un jeu à quatre acteurs.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est assez simple.
C'est relativement simple. Alors après, quand on regarde un peu le détail, c'est compliqué parce qu'on échange à la fois du tourteau et des graines. Il y a aussi l'Argentine qui produit du tourteau. Selon les possibilités de...
Le tourteau, c'est une fois l'huile exprimée.
Voilà, tout à fait. C'est ça qui sert à l'alimentation animale. Et donc, on peut imaginer que sur le long terme, encore une fois, il y a des pays qui fassent des investissements pour pouvoir produire plutôt du tourteau plutôt qu'importer des graines. Et donc, il peut y avoir aussi des bouleversements comme ça sur la production plus générale de ces produits aussi transformés. Après, juste sur le Trump grand perturbateur du commerce agricole, il y a aussi avec le Mexique. Donc là,
je voulais vous en parler, oui.
C'est ce qu'il a déclaré, donc, de fermer même la frontière avec le Mexique. Comme c'est deux marchés qui sont extrêmement intégrés, il y a énormément d'échanges et surtout des échanges qui sont dans le juste à temps. C'est-à-dire, il y a pas de stock. Comme c'est beaucoup de produits frais, le Mexique vend des avocats, des tomates, des raisins, des produits frais. Et que les États-Unis produisent relativement peu, c'est-à-dire 80% de la consommation américaine d'avocats vient du Mexique. Donc, on peut imaginer l'impact d'une fermeture de la frontière sur ces produits. Et dans l'autre sens, les États-Unis exportent du maïs, du lait, du bœuf, du poulet vers le Mexique. Et donc, ces deux pays sont extrêmement dépendants l'un de l'autre. Donc, effectivement, une fermeture ou une imposition de droits de douane très importante entre les deux aurait des impacts extrêmement forts.
Le prix des avocats a explosé ces derniers mois à cause des menaces de fermeture de frontières pour enrayer l'immigration. Thierry Pouche, c'est un phénomène majeur, ça, auquel on assiste souvent, ou c'est vraiment spécifique aux échanges entre ces deux pays?
Ah, depuis Donald Trump, il y a quand même un durcissement de la politique d'immigration. D'ailleurs, ça avait beaucoup inquiété les agriculteurs, cette perspective d'érection d'un mur entre les deux pays.
À cause du manque de main-d'œuvre.
Voilà, pour le fait qu'il y ait moins de main-d'œuvre mexicaine qui vienne travailler dans les exploitations agricoles américaines. Mais Donald Trump, dans son discours devant les agriculteurs, a quand même exprimé l'idée qu'il y aurait des dérogations dans la mesure où les salariés pourraient continuer à travailler côté américain, mais avec des documents administratifs bien précis et aussi avec un salaire horaire relativement élevé, $12 de l'heure, c'est quand même pas si mal. Donc et ça s'assouplit un petit peu pour les agriculteurs, il y a eu des pressions. De même que dans la guerre commerciale avec la Chine, les négociations entre les deux pays continuent. Ce qui explique que Donald Trump, ayant laissé entendre qu'une perspective d'accord pourrait émerger dans les semaines qui viennent, on a vu le cours du soja remonter assez brutalement ces dernières semaines-là.
Puisqu'on parle du soja, revenons-y. Vous l'avez dit, les revenus des producteurs américains ont baissé parce que la Chine impose des mesures de rétorsion douanière sur les exportations américaines. Mais ça ne s'arrête pas là. Les paysans chinois, certains d'entre eux même, se sont lancés dans la production de cette graine, histoire de réduire les importations. T'as un reportage d'Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, dans la province du Rébé, signé Wu Hanuo et Stéphane Lagarde.
Là, on rentre sous une serre.
Dans cette serre, on ne voit que des pastèques. Plus loin, il y a des tomates et le concombre.
Il fait combien de degrés? Il fait chaud, là?
30 degrés sous les bâches en plastique en plein mois d'avril. Les plants de pastèques des serres de M. Cheng se croient déjà en été. Ici, comme dans le reste des grandes plaines chinoises, la terre ne chôme pas. Dans sa ferme, cet agriculteur de 35 ans fait pousser les légumes, des fruits, des céréales destinés à satisfaire la boulimie des deux grands voisins, la mégalopole de Tianjin et la capitale, Pékin. Et depuis peu, comme d'autres exploitants du Rebé, Cheng Cheng s'est mis au soja.
Depuis quelques temps, le maïs et le blé ne rapportent pas beaucoup. En revanche, les surfaces consacrées au soja augmentent. Il y a une raison à cela, bien sûr. C'est à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis. Le prix du soja a beaucoup augmenté. C'est bien plus rentable pour nous. Ces derniers mois, de nombreux agriculteurs se sont mis au soja en Chine.
Faire pousser du soja, et vite, les oléagineux ont été parmi les premières importations américaines taxées par Pékin suite aux sanctions prises par Donald Trump. Pour compenser, les autorités locales du nord-est de la Chine ont encouragé les agriculteurs à se lancer dans la légumineuse. L'année dernière, les paysans du Heilongjiang ont ainsi perçu 200 yuan de subvention par mou de soja cultivé. Ru Wencheng, chercheur à l'Institut d'agronomie de l'Académie des sciences de l'agriculture à Pékin.
Quand la guerre commerciale a commencé, le gouvernement a lancé un appel pour étendre les cultures de soja. Les mesures de subvention ont fonctionné. De nombreux paysans ont été incités à remplacer certaines de leurs productions par du soja. C'est le cas du maïs, par exemple. Il y a plus de champs de soja qu'avant, mais l'effet reste limité.
Des oléagineux subventionnés, mais la production chinoise est loin de satisfaire les besoins en protéines du premier consommateur de soja de la planète. Avec la trêve commerciale, le soja est revenu dans les négociations. Les choses avancent pour les fermiers américains. Ce sera le plus grand accord agricole jamais réalisé, promettait Donald Trump le 22 février dernier avec le retour des premiers conteneurs. Selon les autorités américaines, 91 500 000 tonnes d'oléagineux venus des États-Unis devraient être exportées vers la Chine cette année. Ru Wencheng.
Le soja sert à produire de l'huile, mais pas seulement. On s'en sert aussi comme fourrage pour les bêtes. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de terres cultivables. L'autosuffisance est donc impossible. Le soja est cultivé sur près de 6 700 000 hectares en Chine, soit 16 millions de tonnes par an. Or, nous avons besoin de 110 millions de tonnes. Nous sommes donc loin du compte.
Des tourteaux de soja américains transgéniques pour les élevages de bovins, de volailles et de porcs en Chine. Les nouvelles subventions destinées à encourager la production locale étaient attendues ici après le nouvel an chinois. Pour l'instant, elles n'ont toujours pas été annoncées. Heureusement, M. Cheng est prudent. Le soja cette année ne représente qu'un dixième de ses champs.
Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Stéphane Lagarde sur RFI. Nous parlons de la situation du commerce agricole mondial, jusqu'à présent beaucoup du soja, avec trois invités. Charlotte Emlinger, économiste au CEPI, un des principaux centres de recherche parisien en économie internationale. Frédéric Colleux, directeur des études du think tank Agriculture Stratégie. Et Thierry Pouche, responsable du service études et prospectives des chambres d'agriculture de France. Je vous voyais tous les trois écouter très attentivement ce reportage. Charlotte Emlinger, qu'est-ce qu'il vous suggère comme réflexion, ce reportage de Stéphane Lagarde sur ces producteurs chinois qui font du soja, mais pas assez, visiblement, pour satisfaire la demande intérieure?
Effectivement, la Chine est, donc je l'ai dit, le premier importateur mondial de soja, et il importe 80% de sa consommation de soja, donc c'est énorme. Donc jusqu'à présent, il importait essentiellement des États-Unis. Et donc avec cette guerre commerciale, il y a effectivement intérêt à développer sa production nationale, mais pour produire autant, ça va être compliqué. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit bien les différences d'impact, donc du court terme, c'est-à-dire sur une année, ben voilà, les prix augmentent ou diminuent. Donc là, typiquement, le soja américain qui peut pas être vendu en Chine, son prix baisse. Et après, on voit les effets plus de long terme, c'est-à-dire les investissements, le gouvernement chinois qui subventionne la production de soja. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus de long terme. Et ce qu'on peut dire sur ces histoires de guerre commerciale et de la politique de Trump, c'est que ça met surtout beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire, voilà, on a parlé du Mexique, là, sur le soja. Donc, voilà, les Chinois, ils commencent à produire du soja. Mais finalement, s'il y a un accord et qu'ils continuent à importer des États-Unis, les investissements de productifs en Chine pour produire du soja vont pas être intéressants, poursuivis. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est surtout que ça met une incertitude. Alors, c'est quelque chose qui est vrai pour les produits, pour le commerce international en général, mais pour l'agriculture, je dirais que c'est même encore renforcé, parce que beaucoup de produits sont aussi des produits périssables, où les stocks sont très chers, et où il y a, alors, excusez-moi de parler un peu en économiste, mais où l'offre est très inélastique, c'est-à-dire on peut pas décider comme ça, du jour au lendemain, d'augmenter sa production. Et donc forcément, les adaptations à ces différents facteurs de perturbation sur le marché international sont beaucoup plus difficiles à faire.
Thierry Pouche, sur l'impact de cette guerre commerciale, sur cette incertitude qu'évoque Charlotte Emlinger, est-ce que ça va au-delà du soja? Est-ce que beaucoup de produits qui sont indispensables à l'alimentation humaine sont affectés par cette incertitude en ce moment?
La viande porcine est aussi concernée, puisque elle a été l'objet de mesures de rétorsion de la part de Pékin, qui en plus connaît un épisode sanitaire assez grave avec la peste porcine. Donc la production devient totalement insuffisante pour satisfaire les besoins d'une population dont on sait qu'elle consomme quand même beaucoup de viande porcine. Et on a l'explication aujourd'hui, c'est que le cours du porc est en train de flamber, et ça, c'est plutôt une retombée positive pour les éleveurs porcins français, puisqu'ils exportent quand même beaucoup vers la Chine. Et que face à cette demande, il y a un volume qui peine à couvrir la consommation mondiale, et notamment celle de la Chine. Et donc on voit bien que là, aujourd'hui, en quelques semaines, le cours du porc a flambé.
Frédéric Courleux, les agriculteurs français, ils ont des raisons de se réjouir de cet affrontement commercial agricole entre la Chine et les États-Unis? Ils peuvent tirer leur épingle du jeu?
Le bras de fer commercial en ce moment en train de perturber les certitudes européennes s'agissant de la question agricole et la manière dont on discipline les politiques agricoles depuis la création de l'OMC en 1995, c'est certain. Sur la Chine, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que si c'est un gros importateur de soja et peut-être de viande de porc aussi, la Chine est le premier producteur d'à peu près toutes les productions, notamment en céréales. C'est un énorme pays agricole qui a fait le choix d'être quasiment autosuffisant sur le riz, sur le blé. C'est un très gros producteur de maïs aussi. Les prix agricoles en Chine sont les plus élevés au monde. La Chine soutient...
C'est-à-dire pour les producteurs.
Pour les producteurs, les prix des produits agricoles, par exemple le blé, on est à plus de $300 la tonne. Là où en France, les agriculteurs ont touché en gros 160 euros la tonne l'année dernière. Donc ils se protègent non pas des importations, non pas des pays, des autres pays, ils se protègent du problème numéro un depuis 2013, ils se protègent du dumping des prix internationaux. On a une grosse faille dans notre logiciel à l'OMC, c'est qu'on a pensé qu'il suffisait de supprimer les politiques agricoles, en tout cas les disciplines fortement pour que les prix remontent et se stabilisent à un niveau d'équilibre. Le problème, c'est qu'en réalité, les prix internationaux sont des prix de dumping, sauf quelques rares exceptions, quelques rares périodes de tension de sécurité alimentaire, comme on l'a vécu en 2008.
Qu'est-ce que vous appelez des prix de dumping? Expliquez-nous plus précisément pourquoi cette volonté générale de produire et produire tant et plus aboutit à des prix de dumping.
Les prix élevés de 2008 à 2012 ont relancé la production partout dans le monde après 40 ans de prix bas. Il y a quelques lois en économie qui fonctionnent, et notamment en économie agricole, c'est qu'après une période de prix élevé qui a relancé la production, l'offre dépasse la demande et les prix chutent. Et malheureusement, l'ajustement de l'offre ne se fait pas parce que l'offre est très inélastique sur le court terme. Donc on est en train de vivre cette période-là de surproduction au niveau international, malgré une hausse croissante de la demande.
Mais concrètement, sur quels produits on est en surproduction ? Sur tous ?
Alors sur les stocks de céréales, on a doublé les niveaux de stock par rapport à au début des années 2010. C'est pour ça qu'on a besoin de politique agricole forte. Le problème, c'est que le secteur agricole ne répond pas à des prix bas et l'ajustement par les prix ne se produit pas aussi vite qu'on le voudrait.
C'est-à-dire qu'on a
des crises de surproduction.
Dans les céréales, la surproduction, oui. Il y a eu une grande période là récemment sur le lait, où avec la sortie des quotas laitiers dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays, notamment du Nord, qui ont anticipé cette sortie et qui se sont mis à produire beaucoup de lait dans la perspective que la demande absorberait cette production. L'Europe, donc l'Irlande notamment. Le sucre en ce moment a des cours qui sont très bas, puisqu'il y a eu une sortie des quotas laitiers, des quotas sucriers de l'Union européenne qui a correspondu au même moment à une envolée de la production au Brésil, en Inde, etc. Donc on est aujourd'hui sur un marché engorgé, avec tout un tas de problèmes que ça pose pour la filière sucrière en Europe et en France en particulier.
J'ajoute que le café est au plus bas depuis 13 ans,
oui,
j'ai vu ça.
Oui, absolument aussi.
Alors, s'il y a tellement de production, pourquoi est-ce qu'on a encore des problèmes alimentaires sur la planète ? Frédéric Courleu.
Le problème de la faim dans le monde n'est pas un problème de quantité, c'est un problème d'accès. Et plus de 70% de la population qui souffre le plus de la faim sont des ruraux et des paysans. Donc quand les prix sont très bas, paradoxalement, c'est un problème pour la faim dans le monde. Ça crée, ça déstabilise politiquement des régions. Donc voilà, il ne faut pas sombrer dans le simplisme qui a voulu, il y a quelques années, penser que la faim dans le monde, c'est un problème de prix élevé. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Charlotte Emlinger, c'est un problème que vous regardez, cette histoire de faim dans le monde, l'impact des prix haut ou bas sur l'accès général à l'alimentation.
Je rajouterais que le problème de l'alimentation, c'est effectivement un problème de prix haut et bas, enfin de produits bas, mais c'est aussi une histoire de volatilité. La volatilité, c'est une caractéristique inhérente de l'offre agricole, puisque l'offre dépend de facteurs extérieurs. Il y a ce que vient de dire Frédéric Courleu, que l'offre est très inélastique, qui fait que les prix agricoles, depuis toujours, sont extrêmement variables. Et donc, non seulement des prix bas peuvent entraîner des problèmes, ne sont pas la solution justement à la faim dans le monde, mais il faut aussi avoir des politiques qui arrivent à gérer cette volatilité des prix, qui est dommageable à la fois au niveau des consommateurs, puisqu'ils peuvent pas, ils savent pas d'avance combien ils vont devoir payer leurs produits alimentaires, mais aussi au niveau des producteurs, puisque la volatilité des prix veut dire incertitude sur les revenus et veut dire aussi moins d'incitation à investir sur son exploitation agricole, puisqu'on ne sait pas combien on va pouvoir gagner demain, etc.
Un
tout petit point sur cette question de la malnutrition et de la sous-alimentation dans le monde. C'est vrai qu'on a eu des décennies de baisse d'effectifs d'humains touchés par ce problème. Là, depuis 2-3 ans, on observe une remontée relativement légère, mais une remontée quand même, du nombre de personnes touchées. Mais la FAO insiste bien, depuis les deux dernières éditions de ses rapports, que cette remontée est en partie due aussi aux zones de conflit. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pays sont rentrés dans des conflits longs, meurtriers, et qui ont dévasté les cultures, qui ont dévasté les infrastructures pour acheminer les denrées agricoles, et ça expliquerait sur les 800 et quelques millions de personnes dans le monde touchées par la faim, il y en a 150, 160 millions qui seraient
dans des zones de conflit.
Dans des zones de conflit. Et il faut ajouter aussi maintenant des zones avec des problèmes climatiques qui perturbent évidemment les productions et l'acheminement de ces productions sur les marchés.
Alors, il y a des pays où la question de la faim se pose encore un peu, où elle s'est longtemps posée de manière massive. Ça a été un peu réduit par l'action des gouvernements successifs. C'est le Brésil. Et c'est aussi un pays qui joue un rôle important dans la partie A4 sur le soja. La partie A4, c'est les Europe, États-Unis, Chine et Brésil. C'est le Brésil dont on va parler. Alors, est-ce que le Brésil peut tirer parti de l'affrontement sino-américain? Le Brésil, qui est un des grands exportateurs de viande et de soja. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sara Cosolino à Rio de Janeiro.
Les yeux rivés sur son portable, Fabio Ramos est toujours attentif au commerce de grains et notamment de soja au Brésil.
Je reçois tous les jours les informations par mail avec les prix des marchés.
Il a sa propre entreprise de conseil dans le secteur de l'agronégoce depuis 36 ans.
La récolte de soja et maïs a déjà commencé depuis février-mars et nous entrons maintenant dans une dynamique commerciale. L'agriculteur va pouvoir évaluer la situation s'il peut vendre à un bon prix.
Le Brésil est le premier exportateur de soja et de viande vers la Chine. Une situation qui peut l'amener à jouer un rôle important dans les prochains mois alors que Washington et Pékin mènent une guerre commerciale.
Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer dans un futur proche parce que si le Brésil augmente sa relation commerciale avec les États-Unis, est-ce que le pays va réduire sa relation commerciale avec la Chine et les pays asiatiques? Et en ce qui concerne les pays arabes, qui sont les plus grands acheteurs de volailles brésiliennes, si le Brésil a des positions politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts, ça peut aussi modifier nos relations commerciales.
Le nouveau président Jair Bolsonaro entend occuper une place de plus en plus importante dans le commerce international à travers l'exportation des matières premières. Mais pour ça, le pays devra améliorer ses infrastructures et notamment ses ports par lesquels transite 95% du commerce international brésilien. Marcio Sechi Fortes est responsable des affaires internationales pour la Société nationale d'agriculture.
On a besoin de beaucoup de Et le gouvernement du président Bolsonaro a une préoccupation très grande d'augmenter les investissements dans le secteur d'infrastructure parce que nous avons des problèmes avec les ports, nous avons des problèmes avec le chemin de fer, parce que la production brésilienne des maïs, des soja, elle est dans l'intérieur du pays.
Au-delà des difficultés de transport, le Brésil se heurte aussi à l'exigence de qualité des marchés européens notamment. Fernanda Fonseca est chercheuse dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage biologique. Pour elle, il est important que les éleveurs brésiliens changent leur comportement face aux OGM et aux pesticides.
Dans les endroits où on fait ce type d'élevage, on utilise beaucoup de pesticides et de soja génétiquement modifiés. Donc je pense qu'il faut changer les mentalités. Mais je ne sais pas si on est prêt pour ça, parce que c'est un changement considérable du système de production.
La ministre de l'Agriculture brésilienne ne semble pas privilégier la voie de l'agriculture biologique. En 100 jours de gouvernement, le Brésil a autorisé la réintroduction de plus de 120 pesticides, dont certains sont interdits au sein de l'Union européenne.
Un reportage signé Sara Colzonaro à Rio de Janeiro. Thierry Pouche, est-ce que le Brésil va réussir à rester au premier rang de l'agriculture mondiale? Bon, il a des terres, mais est-ce que le système d'affrontement commercial international qui s'organise en ce moment, c'est le désordre organisé en ce moment d'une certaine manière, est-ce que il est armé pour y faire face?
Il faut rappeler déjà qu'il s'agit d'un pays qui est extrêmement agressif sur les marchés mondiaux, et ça, c'est quelque chose d'assez ancien. Le Brésil a toujours critiqué les politiques agricoles menées ailleurs. Il a régulièrement déposé des plaintes à l'OMC sur le coton, par exemple, américain, qui est très fortement subventionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Brésil, aujourd'hui, est le troisième exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires derrière l'Union européenne et les États-Unis. Et sa progression a été assez fulgurante. La troisième chose, il n'a pas attendu la guerre commerciale pour supplanter les États-Unis comme premier fournisseur de soja de la Chine. Ça fait déjà 4-5 ans que les États-Unis sont passés au second rang. Donc on voit bien que c'est un pays qui a mis en place une stratégie très tournée vers l'exportation et qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Il y a des limites qui sont atteintes aujourd'hui, ça a été rappelé dans votre reportage, sur les infrastructures portuaires et les infrastructures ferroviaires. Donc il y a un besoin d'investissement massif pour propulser le Brésil encore plus vers les marchés mondiaux.
Charlotte Emlinger, le Brésil, malgré ses problèmes d'OGM, malgré ses problèmes d'utilisation massive de pesticides, restera un acteur majeur?
Oui, donc comme l'a dit Thierry Pouche, c'est effectivement un des acteurs majeurs qui a toujours une politique très orientée vers l'exportation. Et on voit bien dans votre reportage que les politiques actuelles vont continuer dans cette direction-là. Après, votre reportage justement soulignait les problèmes de qualité. C'est quelque chose qui est essentiel dans les produits alimentaires, puisque c'est des produits qui font plus que les autres l'objet de normes sanitaires, phytosanitaires. Et certains marchés sont très difficiles d'accès pour certains exportateurs, justement à cause de ces normes. Le marché européen en particulier, mais également américain, japonais, sont des marchés avec beaucoup de standards, et donc tous les exportateurs ne peuvent pas réussir à accéder à ces marchés.
Frédéric Courleux, le Brésil est très présent sur le marché européen ?
De plus en plus, notamment sur les viandes blanches, mais si le Brésil effectivement développe sur certains secteurs son potentiel exportateur, on parle beaucoup du soja depuis tout à l'heure, il faut aussi parler d'autres secteurs sur lesquels le Brésil sait être pragmatique et défendre son marché intérieur et ses producteurs pour se développer. Je veux parler du secteur laitier notamment, où contrairement à l'Argentine qui a complètement ouvert ses frontières aux importations de poudre de lait, notamment européenne, avec des ravages assez importants pour la filière argentine. Au contraire, au Brésil, ils mettent des taxes anti-dumping sur la poudre de lait européenne pour protéger leur marché intérieur contre cette concurrence qu'ils estiment déloyale. Je voudrais parler aussi du sucre. Le Brésil est le premier exportateur mondial de sucre. Il a un potentiel énorme en la matière. Et il faut avoir à l'esprit que les Brésiliens ont quelque part une stratégie de régulation du marché international du sucre qui en ce moment est complètement plombée. On est à des plus bas jamais vus, mais malheureusement leur système de régulation qui consiste à adapter le taux d'incorporation de l'éthanol produit à partir de sucre dans les carburants est arrivé au maximum. Ils sont au taquet, ils peuvent pas en incorporer plus, et du coup ils peuvent pas faire face à une stratégie européenne qui a flingué le marché international en abandonnant brutalement le système de régulation européen.
Alors on parle de l'Europe, des quotas de sucre au Brésil, de l'incertitude, de la concurrence, tout cela m'amène à vouloir vous questionner maintenant sur un phénomène qui a défrayé la chronique et qui a amené à le faire encore longtemps, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le fameux Brexit qui est reporté, on le sait, de 6 mois maintenant. Pourtant, dans les exploitations agricoles britanniques, l'inquiétude est forte, palpable. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Abla Junaidi chez les fermiers anglais.
Lowerwild, village typique du Hampshire dans le sud de l'Angleterre. Julian Gibbons, casquette et velours côtelé, cultive en famille l'orge et le blé. Il représente aussi dans le comté le syndicat agricole NFU. Le gouvernement a promis de protéger les filières vulnérables, comme la viande par exemple, mais pour son secteur, les conséquences seront lourdes.
We also import quite a lot of milling wheat.
Nous importons beaucoup de blé au Royaume-Uni. Notre gouvernement a annoncé qu'en cas de Brexit sans accord, les droits de douane seraient supprimés. De notre côté, on exporte aussi de la mouture de blé qui est très appréciée par les marchés espagnols, portugais et italiens. Ces marchés vont se fermer pour nous. On devra alors concurrencer les Européens ailleurs, en Afrique du Nord par exemple. Les Européens, eux, auront les bénéfices des aides, pas nous.
Chez Barfoots of Botley, un géant mondial de l'agroalimentaire, les droits de douane ne sont pas le principal sujet d'inquiétude. Pour fournir toute l'année le très apprécié corn on the cob, l'épi de maïs, l'entreprise importe déjà ses produits de fermes partout dans le monde, de l'Argentine au Sénégal en passant par l'Espagne. Non, ce qui inquiète, c'est la main-d'œuvre. Depuis quelques mois, les travailleurs européens, notamment les Polonais, ont déserté. Le responsable de l'usine, Chris White, fait appel à des ouvriers extra-européens. La photo de l'employé du mois, un Ukrainien, s'affiche à l'entrée.
Et c'est pas son meilleur profil, mais bon. Les gars viennent devant ce tableau tous les matins pour regarder s'ils ont atteint leurs objectifs la veille. C'est une façon de les impliquer davantage dans ce qu'ils font.
Les impliquer pour les garder au maximum, le gouvernement britannique a promis au secteur de faciliter l'arrivée de 2000 d'entre eux en cas de Brexit dur, un nombre jugé insuffisant. L'enjeu, continuer à nourrir la population. C'est une réalité, le Royaume-Uni importe l'immense majorité de ce qu'il consomme. Il serait temps que ça change,
C'est le message prôné en tout cas chez McNaid, un magasin qui propose des aliments de qualité produits localement. Pierce est un client habituel.
Je vais acheter une côte de bœuf pour la cuisiner dans ce barbecue. La meilleure invention du monde. Je crois qu'il faut soutenir la production locale. Je ne veux pas que ma pièce de bœuf vienne par avion de l'autre bout de la planète et pollue davantage notre environnement.
L'épreuve du Brexit doit permettre de développer l'agriculture locale, améliorer notamment sa productivité. Mais surtout, il faut que les Britanniques préservent leur souveraineté. Stefano Cuomo, le directeur de McNaid.
Il y a des opportunités pour l'agriculture britannique si on sort de l'Union. Mais le risque, c'est que pour garder des aliments bon marché, on revoit nos normes à la baisse, que ce soit la qualité ou la sécurité, dans le cadre des traités de libre-échange qu'on serait amené à négocier. Les États-Unis frappent à notre porte, d'autres pays veulent exporter chez nous. Nous avons des normes assez élevées, que ce soit pour l'environnement, le bien-être animal ou même l'usage des pesticides. Est-ce qu'on va revenir sur tout ça? C'est mon inquiétude.
Dans un pays où les scandales sanitaires passés, comme la crise de la vache folle, sont encore dans les esprits, ce n'est pas anodin. Mais les intentions du gouvernement britannique, comme pour le reste, demeurent floues.
Alors Frédéric Courleau, est-ce que dans cette inquiétude des fermiers anglais, ces craintes d'être privés de débouchés, mais aussi de fournisseurs, c'est pas une excellente illustration du niveau d'intégration auquel est parvenue l'agriculture européenne et qu'on voit dans ce reportage d'Ablaj Ounaïdi ?
Si, bien sûr. Mais paradoxalement, on voit bien avec ce reportage qu'il y a des vrais enjeux pour produire davantage en Angleterre et se repositionner différemment dans cette spécialisation. Et qu'au final, les Anglais étaient peut-être pas tant que ça anti-PAC, ils étaient plutôt anti-politique communautaire. Les Anglais étaient historiquement le premier pays à introduire des aides directes, les fameuses deficiency payments, bien avant de rentrer dans la PAC.
Charlotte Emlinger, est-ce que la sortie des Anglais de l'Union européenne, c'est l'apparition d'un nouvel acteur sur le marché agricole mondial, puisque jusqu'à présent, les Anglais étaient intégrés dans l'Union européenne?
Non, le Royaume-Uni n'est pas un grand acteur au niveau exportateur dans le marché agricole mondial. Par contre, effectivement, comme le marché est très intégré, il va y avoir des bouleversements à l'intérieur de l'Union européenne. Et une étude que nous avons faite au CEPI sur l'impact du Brexit sur le commerce agricole montre que, dans le cas du Brexit, il y aura une grande baisse, évidemment, du commerce, des exportations des pays européens vers le Royaume-Uni, mais que certains acteurs, comme par exemple les producteurs bovins en France, pourraient tirer leur épingle du jeu, puisqu'ils pourraient prendre les marchés des producteurs anglais.
Thierry Pouche, est-ce que la sortie des Anglais du marché commun européen agricole, ça va aboutir à une reconfiguration totale de la stratégie européenne ?
D'abord, je voudrais dire que les angoisses des agriculteurs britanniques se font sourire, parce qu'ils ont voté à 58% pour la sortie de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Retrouver une souveraineté alimentaire qu'ils ont abandonnée en 1846, ça va être compliqué. Et je ne crois pas que, même si c'était un grand pays importateur, c'est le premier déficit d'un pays européen commercial, c'est presque 30 milliards d'euros chaque année. Hein, ils importent énormément. Donc, je ne suis pas sûr que ça puisse reconfigurer grand-chose. À court terme, en tout cas, s'il y a... une sortie sans accord, là la concurrence intra-communautaire risque de se renforcer parce qu'un pays comme l'Irlande a déjà annoncé que s'il n'a plus accès ou moins accès au marché britannique, eh bien il essaierait de trouver sur le marché intra-communautaire des débouchés de substitution.
Quand vous dites que la Grande-Bretagne a renoncé à sa souveraineté alimentaire en 1846...
Oui, c'est l'abrogation de la loi sur les blés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'avant, les blés produits sur le territoire britannique étaient protégés par des tarifs douaniers, mais le choix a été fait de l'industrialisation, et pour avoir un coût de la matière première, notamment pour le salariat moins élevé, on a abrogé cette loi sur les blés pour faire rentrer les blés américains et argentins beaucoup moins chers, et donc pour peser sur la formation du salaire après.
Eh bien, c'est sur cette page d'histoire et sur cette remontée dans le temps que se termine cette émission. Merci à vous trois, Charlotte Emlinger, Frédéric Courleau, Thierry Pouche, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.